là maintenant notre travail c'est un travail
de naturaliste, c'est d'éthologue, c'est-à-dire qu'on observe le comportement de l'œuvre, de l'objet qu'on a créé et qui échappe à notre contrôle.
Je vous entendais dire 120 par 3 minutes, ça pourrait presque être la définition de l'œuvre.
Oui, et encore, parce que c'est plus que... Enfin, on a fait les calculs rapidement. Pour le moment, il y a 45 à peu près familles d'animaux, on va dire, familles d'animaux sonores. Et chaque animal sonore a au moins 3 ou 4 types de partitions à jouer. Donc ça fait, et ces partitions durent en moyenne 3 minutes. Donc effectivement, ça fait 120 partitions différentes de 3 minutes. Mais pour chacune de ces partitions, l'ordinateur interprète à chaque fois différemment les partitions en plus. Donc c'est une pièce qui n'est jamais la même, en fait.
C'est un opéra de Wagner ?
C'est assez, il y a quelque chose de wagnérien, peut-être, oui, effectivement. Mais sauf que c'est dans le désordre, c'est jamais dans le même ordre. C'est la tétralogie qu'on jouerait à chaque fois dans un ordre différent.
Bon, bah, c'est possible, hein, c'est comme la recherche.
oui, c'est ça. C'est assez, j'aime bien cette image. C'est la même image de la tétralogie qu'on jouerait, dont on jouerait les numéros des airs d'opéra dans un ordre différent à chaque fois et avec une interprétation des tempos différents, des chanteurs avec des timbres différents. C'est assez beau comme idée. C'est assez proche.
C'est l'idée de la leitmotiv, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne dans son orchestration.
Ah oui, alors le leitmotiv, effectivement, je pourrais dire que dans Carré Magique, il y a des leitmotivs aussi, puisque je dirais que le niveau élémentaire de la composition, il est constitué de gestes sonores qui sont très clairs, très définis, et qu'on retrouve effectivement dans les différentes familles d'animaux sonores. Par exemple, il y a des gestes, des choses assez simples, hein, des accélérations avec des crescendo, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, choses comme ça, ou des figures en tour Eiffel, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voilà, des sortes de figures comme ça qui sont plastiques, hein, qui sont jamais les mêmes, qui évoluent au cours des miniatures sonores. Et effectivement, ça pourrait être des leitmotifs naturels, parce que tous ces gestes, je les ai quand même consciemment ou inconsciemment construits en relation avec des véritables chants d'oiseaux ou cris d'insectes que j'ai interprétés à ma manière, à vrai dire. La question du modèle naturel est importante dans mon travail, aussi bien dans mon écriture instrumentale que dans ce type de travail d'installation sonore.
Et puis là, on a le vent, un interférent méchant, et ce qui bouge la lumière, en fait.
Voilà, alors ça, c'est un paramètre qu'on n'avait pas prévu avec Manuel Politi. Et le vent, donc, rend fou. Le vent rend fou la créature. Et donc, la créature se comporte d'une manière incontrôlée, s'affole à tout moment, s'arrête, repart. Et tout à l'heure, j'étais un petit peu inquiet parce que ma créature était très malade. Elle avait des crises de folie, je n'expliquais pas.
Voilà. Ah, c'est un peu Frankenstein, hein, c'est un peu ce qu'il dit.
C'est ça. On est. C'est un automate qu'on a construit, hein. Et donc on retrouve toutes les problématiques liées à l'automate et le fait que l'automate échappe au constructeur aussi. Voilà.
Et donc il invente de nouveaux parcours, de nouveaux sons.
En fait, il se comporte d'une manière qu'on n'avait pas imaginée. Il invente de nouveaux parcours. Oui. Il n'invente pas de nouveaux sons parce que ça, c'est le plancher des vaches, quoi. C'est le niveau zéro du matériau et ça, il peut pas le changer dans la structure informatique. Mais tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est construction, tout ce qui est parcours, tout ce qui est évolution dans le temps. C'est lui qui décide selon nos règles. Mais là, voilà, comme le docteur Frankenstein et sa créature, la créature ne suit pas la loi du créateur.
Donc il y a des algorithmes derrière.
Ah, c'est effectivement. Alors il y a deux couches de construction informatique. Il y a une construction profonde en temps différé, mais qui est celle qui génère les partitions. Et effectivement, elles sont générées. Donc ça, c'est moi qui ai fait cette partie-là, où j'ai écrit des algorithmes dans un logiciel qui s'appelle Open Music. Et cet algorithme compose donc des partitions selon des règles de l'algorithme. Et ensuite, il y a la deuxième couche informatique qui est l'interprète, en fait. Donc j'ai réalisé des algorithmes de composition et Manuel Politi a réalisé l'algorithme d'interprétation.
Alors qui compose l'œuvre?
Ah, c'est une interaction. Alors qui compose l'œuvre? Ça, c'était une question. Je crois qu'il y a trois agents. Il y a le compositeur, il y a le réalisateur en informatique musicale et la machine. Nous sommes trois co-compositeurs.
Bah, c'est presque de la musique classique, trois voix.
Exactement, exactement. Bah, sauf que là, en fait, la différence, c'est que l'instrument est assez capricieux. Il y a le compositeur, l'interprète, et l'instrument, qui est la machine qui joue, a une proto-conscience, on va dire, en quelque sorte.
Alors, comment vous est venue cette idée ?
Je suis tombé par hasard dans l'installation sonore, on pourrait dire, qui n'était pas mon domaine de travail au départ. Donc, j'ai fait une incursion dans ce domaine de l'installation sonore. Maintenant, presque 10 ans, à la suite d'une discussion avec le directeur de l'IRCAM de l'époque, je lui ai parlé de mon expérience japonaise et de cette force dans la culture japonaise, de la relation entre la culture et l'environnement, justement. À partir de là, j'ai développé toute une réflexion de la relation entre une œuvre musicale et son environnement. Et c'est ça qui m'a amené sur ce terrain de réflexion par rapport au travail sur l'installation sonore, ce que j'essaie d'aborder avec une réflexion, sous un angle de compositeur de concert, on va dire. Donc avec toute la problématique de l'écoute de la musique de concert, qui est très difficile à retrouver en extérieur dans le cadre d'une installation. Et c'est, on pourrait dire, là je crois que on pourrait dire que c'est la machine qui donc par sa sensibilité à l'environnement incite, en tout cas, et donc est capricieuse et incite l'auditeur à lui-même être sous les caprices de la machine pour écouter, finalement. Et donc, par ce biais-là, j'essaie d'arriver à une interactivité, hein, et pas une interaction, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une relation d'égal à égal entre la machine et le visiteur. Et le visiteur doit donc se plier à la règle de la machine pour pouvoir écouter son interprétation de l'algorithme.
Le jardin japonais ou l'espace japonais de vouloir refaire le monde dans un petit espace.
Oui, 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 oui. Ce qu'on retrouve dans Le Guerrier Magique, c'est l'idée d'inscrire l'œuvre sonore dans le paysage. Et là, c'est surtout par le matériau sonore, qui est un matériau proche des sons naturels. Donc ce sont presque des sons naturels. En réalité, ce ne sont pas du tout des sons naturels, ce sont des sons de tout ordre, des percussions, des sons d'instruments. Mais ils sont inscrits dans le paysage. Et donc, par cet artifice, on réussit, Manuel Politier et moi-même, à recréer un espace à trois dimensions, on pourrait dire. Hein. Un espace qui ne se limite pas à l'œuvre elle-même, au carré magique, mais qui s'enracine dans les sons environnants, jusqu'au vent là, qui nous entoure, qui fait aujourd'hui bouger les feuilles des peupliers trembles d'une manière presque romantique, on pourrait dire. Nous sommes en plein Sturm und Drang aujourd'hui.
Et il y a aussi un côté animiste, non ?
Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une chose qui me touche beaucoup. C'est la présence invisible qui nous entoure. Alors ça, c'est une chose qui me vient aussi de mon expérience japonaise. C'est très présent quand on se promène dans une forêt au Japon. D'abord parce que la nature est extrêmement rude. Et on a vraiment l'impression d'être entouré d'animaux cachés, mais d'animaux, des kami, ils appellent ça des esprits, en fait. À la fois avec une idée très, il n'y a pas de transcendance, hein. C'est, il y a une immanence des animaux cachés, des présences cachées. Et en fait, on est proche de l'animisme, effectivement. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse en musique. J'aime bien, par le biais d'un dispositif de diffusion électroacoustique, donner l'impression d'être entouré de présences, musical, invisible. Alors pour ça, évidemment, il faut que le dispositif soit entièrement caché, ce qui est le cas dans Le Carré Magique.
Et puis pourquoi revenir au Quatuor à cordes ?
Alors, le Quatuor à cordes, oui, je pense que là, j'ai cette parenthèse dans mon travail, il faut que je la ferme un jour ou l'autre, ou en tout cas je la mette un petit peu à distance. Et j'ai comme projet maintenant peut-être d'essayer de retourner à des formes musicales plus abstraites, mais avec cette expérience que j'ai vécue depuis 10 ans sur cette questionnement entre la musique et son environnement.
Merci Jean-Luc.